Bienvenue à toutes et à tous dans Par les temps qui courent, une conversation d'une heure et ce soir avec Marie Lozier.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Marie Lozier.
Ce n'est pas une soucoupe, c'est une marmite géante qui descend du ciel. Elle flotte dans l'image grisonnante de pellicule Super 16 et atterrit sur un toit. On la découvre d'abord remplie de spaghettis. On va peut-être pouvoir nourrir quelques déshérités de la grande ville américaine qui s'affiche en arrière-plan. Une première main sort de la masse de pâtes, un corps, puis une robe rose, bientôt suivie d'autres corps et d'autres robes, le visage des créatures humaines qui débarquent trahit leur étonnement. Ils sont des nourrissons tombés de leur mère, ils sont des martiens multicolores, ils sont des corps défoncés en after d'after. Bientôt aspergés de litres de sauce tomate, ils s'en repaissent pour une drôle d'orgie avant que la soucoupe ne reprenne le chemin des cieux. C'est une façon de résumer votre film Flying Saucy, Marie Lozier, qui fait partie de la vingtaine de courts-métrages que propose de découvrir ou redécouvrir une rétrospective que vous consacre le Jeu de Paume à Paris. On pourra aussi y voir vos deux longs-métrages. Tout ceci s'appelle Confetti Atomique, ce qui est un beau programme, et peut se voir jusqu'au 23 novembre à Paris. Bonsoir à vous et bienvenue Marie Lozier.
Bonsoir, merci.
Ça tombe bien, on est à la radio, mais ça me semblait important de commencer par du son. Marie Lozier, il se trouve que c'est la bande-son du petit film que j'ai essayé de décrire en introduction, Flying Saucy. Vous avez quoi comme rapport avec le son? Et puisqu'il est question de faire une rétrospective de votre travail, Marie Lozier, est-ce que tout commence par ça?
C'est vrai que souvent, le rapport au son est immédiat, parce que je pense que c'est ce qui m'anime le plus, qui est le plus intense physiquement, pour moi, c'est vraiment une sorte d'émotion directe. Alors que faire des films, souvent, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de couches de travail. Alors que le son, pour moi, c'est direct quand je l'entends. Et souvent, j'ai travaillé avec énormément de portraits sur des musiciens. Mais je pense que le son, tout d'abord, celui qu'on entendait, la Flying Saucy, c'est fait avec des instruments de cuisine, parce que ça, on parlait de spaghettis, eh bien, j'ai été dans la cuisine et on a fait de la musique avec. Et on s'est bien amusé à essayer de créer une bande son que à travers les instruments de musique. Mais c'est vrai qu'au départ aussi, tous les films étaient faits en une journée, presque comme des performances, sans moyens. Donc on tournait sur les toits de New York avec les amis qui là sortait pour le coup d'une grosse marmite de spaghettis, une sorte de performance spaghetti danse. Mais c'est vrai que c'était des performances filmées en 16 qui duraient une journée, qui se préparaient pendant une semaine que je filmais. Et puis petit à petit, les films se sont déplacés vers des portraits qui ont pris plusieurs années à se faire et qui ont été souvent sur des musiciens. Et la musique, pour moi, elle vient tout d'abord quand j'étais à New York et que, pour gagner ma vie, je travaillais avec un grand metteur en scène de théâtre dont je suis folle du travail, qui est un peu un mentor pour moi, très proche de Jonas Mekas, qui est Richard Foreman. Et je faisais des décors pour lui, pour plusieurs pièces, dont une qui s'appelait Cowboy, The Ontological Cowboy. Et on faisait des... J'ai découvert, grâce au travail dans les décors, en étant à côté de lui tous les jours, comment lui opérationnait le son. Parce qu'en fait, il enregistre des sons sur des cassettes depuis des tonnes d'années. Et à chaque fois, il montait la pièce comme un monteur derrière de son ou de film, qui était des collages. Et les collages, il les contrôlait pour animer les mouvements et les émotions des acteurs sur scène.
Comme si c'était vraiment matriciel, en fait, du travail de Foreman.
Oui. Et il est sur scène en plus, enfin il est dans le public et il contrôle le volume des sons et quand ils arrivent, etc. Et moi ça m'a beaucoup appris l'idée du montage, du collage. Et comme à l'époque je faisais pas de films, c'est complètement autodidacte, à l'époque je faisais beaucoup de collages dans l'atelier et des peintures, des sculptures. Et quelque part, la musicalité du montage sonore qui m'envahissait tous les jours...
À cause de Foreman ou grâce à Foreman ?
Eh bien, ça m'a embarqué quand même beaucoup dans la pensée du montage du cinéma.
On va y revenir, mais peut-être qu'il faut dire qu'est-ce que vous fichez à New York dans ces années-là qui va vous mettre sur la piste de tout un pan artistique aussi de cette ville-là, de cette vie-là ?
Oui, c'est vrai que je n'ai filmé qu'un seul film en dehors de New York. Tout a été filmé là-bas et j'ai passé 21 ans là-bas. Je suis arrivée pour écrire une thèse que je n'ai jamais faite avec une bourse littéraire après...
Qui vous fait bien rigoler.
Ben oui, parce que j'ai toujours séché les cours pour aller faire ce que je voulais quelque part. J'étais à Nanterre, j'étudiais la littérature américaine et j'ai eu une bourse pour écrire les adaptations des nouvelles et des pièces de théâtre au cinéma de Tennessee Williams et Edward Albee. Et j'ai eu un échange avec New York, mais je rêvais de New York puis j'étais toute gamine parce que je regardais tous les comédies musicales, les westerns. Les Lubitsch, les Mankiewicz, les Billy Wilder, c'était les films muets. Les États-Unis et le rock de Bob Dylan à Lou Reed, à Velvet Underground, c'était une obsession.
Depuis petite.
Ah oui, complètement. Donc New York, c'était une prédestination. Et puis j'ai atterri à New York à l'âge de 20 ans. Et c'était un milieu et un moment très particulier en 94 parce que j'ai eu encore accès et je suis tombée en plein dans le mouvement et dans un milieu de cinéma expérimental qui m'a fait rencontrer tout un univers et un monde dans lequel je me suis développée et j'ai commencé à faire du cinéma.
Est-ce que la littérature, puisque c'est le prétexte de votre voyage et de votre arrivée à New York, elle garde, elle est dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur, dans un coin de votre pratique artistique, Marie Lozier ?
Je dirais plus la peinture, parce que quelque part la littérature m'a toujours amenée vers les nouvelles et les pièces de théâtre, donc une certaine approche de la littérature pour arriver plus proche au cinéma. Et je conçois plus les choses comme des tableaux vivants, des images de couleurs, des compositions de couleurs, de mouvements, de cadres, et surréalistes plus que à travers les mots, parce que souvent dans mes films, les personnages parlent, mais c'est pas écrit. Donc c'est à travers la musique ou la parole du personnage documenté que la parole écrite en tout cas existe, parce que sinon c'est plus proche du cinéma muet, c'est plus proche de la danse ou de la performance, quelque chose de plus physique et visuel.
Donc ça veut dire que dès le départ, même au prétexte de cette thèse pas finie, votre rapport à la littérature est déjà un rapport visuel, est déjà un rapport qui se projette.
Oui, parce que je me souviens, quand j'étais à Nanterre, je grandis à la campagne et je vivais chez ma tante russe, que j'adore, qui habitait à Paris. Et elle...
Russe, c'était son prénom ou c'était son origine ?
C'est son origine, Barbara Nazarov. Et elle me permettait de sécher ce que je voulais comme cours, tant que je réussissais pour avoir cette bourse auquel je tenais. Et je courais à la Cinémathèque française suivre les cours de Jean Douchet. Et un autre cours de la ville de Paris pour faire de la sculpture. Donc en gros, dès que je pouvais partir, j'allais vers le cinéma en fait.
Peut-être que c'est ça qui vous a amené à rencontrer Jonas Mekas.
A novelist usually takes time. Is right. It's like a.
Le romancier prend son temps.
An art that is horizontal, like there is past, there is present, there is future.
C'est horizontal. Il y a le passé, l'avenir, le présent que l'on peut certes mélanger. Mais le poète, lui, le poète, ne connaît pas la continuité. Il passe brusquement d'un état à l'autre. Même dans un poème très court, dans un haïku, par exemple, le principe même du haïku veut qu'il y ait le personnage et la nature au dehors, et on passe de l'un à l'autre. Il y a des réalités différentes qui fusionnent de manière très condensée. Ainsi, mes films sont donc un petit peu comme des séries de haïku, de petits poèmes. Si l'on juxtaposait tous mes films, ce serait une épopée sur moi, mes amis et les gens que j'ai rencontrés. J'essaye de dépeindre leurs émotions. Dans mes films, les gens naissent, ils vivent, ils meurent. C'est une immense épopée.
Une épopée composée de haïku. C'est la voix de Jonas Mekas. Il était venu dans notre émission Par les temps qui courent pile un an avant sa mort, en janvier 2019. Marie-Lozy, avant d'en venir peut-être au contenu de cette archive, à ce qu'il développe comme idée, est-ce que vous avez d'abord rencontré Mekas lui-même ou son cinéma, puisque pour le dire rapidement, c'est un grand artiste, figure du cinéma expérimental.
Oui, c'est bon de l'entendre. Bien sûr, je l'ai connu, comme beaucoup d'artistes de ce milieu, parce qu'en fait, Jonas, avec le cinéma de l'anthologie Film Archive, qui a quand même été un peu ma maison de cinéma, qui était, mais littéralement 5 minutes à pied du théâtre de Richard Foreman, a été l'endroit où j'ai découvert énormément de films qui m'ont inspirée, qui m'ont appris un nouveau langage. Et là où aussi, avec merveille, tant d'artistes, que ce soit musiciens, poètes, écrivains, performeurs, se retrouvent pour voir ces films, les siens et plein d'autres, ou pour exposer, partager, rencontrer un certain cinéma. Et c'est une culture, une communauté si forte pour moi, qui a vraiment été mon sorte d'éducation complète, de soutien, une vraie communauté. Et c'est vrai que Jonas était souvent là-bas, aussi beaucoup à côté, à boire des coups avec les amis. Et quand il parle de poésie, c'est une poésie immense, qu'elle soit à travers ses films, qui sont pour moi des grands poèmes. Il parle de montage, il parle d'horizontalité, il parle d'émotions, d'amis. Je crois que tout ça, ça me parle énormément par rapport à mon parcours et parcours de beaucoup, en fait, d'artistes qui se retrouvaient et qui partageaient cette vie aussi.
On sent bien, d'ailleurs, y compris dans la manière dont vos films existent, comme des choses presque organiques, presque vivantes, Marie-Lozy, que cette idée-là d'être avec des gens, de prendre part à une communauté artistique est une idée fondamentale. Ça ressemblait à quoi de regarder des films de Mekas ou d'autres, avec Mekas ou d'autres, qui a été tant formateur, tant du point de vue humain que du point de vue artistique?
Je crois que pour moi, qui était quand même étrangère, et en même temps tout de suite, je me suis sentie chez moi et j'ai trouvé qui j'étais à New York. Et j'ai trouvé ce que je voulais faire aussi à New York, si jeune. C'était la maison, c'est-à-dire que c'était le seul endroit où je me sens complètement ouverte, moi-même, pas jugée, capable de... sans arrière-pensée, aussi parce que c'est un milieu qui n'a pas d'argent, donc il y a aussi...
J'allais tout à fait y venir.
Il n'y a pas de compétition, c'est pas du tout le même rapport au cinéma, c'est pas le même rapport à l'art, donc c'est une autre façon de parler. Il y a beaucoup d'humour, je crois que c'est là aussi que je me sens si bien, et ça manque beaucoup l'humour, je trouve, dans la vie, donc c'est très chouette d'être entourée par quelques beau fou allumé à l'anthologie Film Archive et ailleurs. Il y a eu beaucoup de ciné-clubs et de lieux de performance aussi pareils, mais où tout le monde voyageait de l'un à l'autre. c'est petit aussi comme milieu, mais moi ce qui me plaisait c'était aussi le fait que, par exemple, Jonas Mekas, c'est quelqu'un qui aime le cinéma expérimental, mais ça peut devenir une niche, et en plus même le mot ça peut être n'importe quoi, pour moi c'est du cinéma tout court. Mais c'est quelqu'un qui aime autant les classiques que certains blockbusters. Il aimait le cinéma tout court. Et c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est des niches ou des choses trop fermées. Mais c'était un tel mélange d'artistes différents, de la musique à autre chose, que tout était ouvert aussi pour moi.
Vous dites que ça forme votre œil, votre manière de faire du cinéma. Vous dites que ça, finalement, ça vous ouvre à votre propre langage. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'il disait dans cet archive, c'est le pont qu'il fait entre l'horizontalité des romanciers et la forme de brutalité des changements d'état à l'intérieur du poème. Et qu'il y a une continuité que connaîtrait le romancier qui ne serait un peu étrangère à celui ou à celle qui vit dans la poésie. Et je trouve que ça parle de votre façon de faire du montage. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, petit à petit, vous avez créé un langage, mais à la table de montage ?
Je pense que c'est venu sans le savoir, parce que c'est pas des choses que j'ai analysées quand j'ai commencé à faire des films toute seule, comme ça, avec la Bolex. C'est d'abord déjà cette
caméra.
La Bolex,
hein. Voilà, la caméra.
C'est d'abord cette caméra qui tourne sans son synchro en 16 mm avec des bobines de 3 minutes. Quand on tourne avec une Bolex, on doit rembobiner toutes les 25 secondes. Donc déjà, ça coupe dans le mouvement toutes les 25 secondes, donc une comédie musicale hachée. Déjà, il y a un rythme assez frénétique dans une bobine de 3 minutes. Plus, le son qui n'est pas synchro peut aussi amener une sorte d'imaginaire poétique au son qui peut être déphasé par rapport à l'image qu'on voit. D'où une deuxième couche d'univers qui peut être brutalement à l'opposé du rythme de l'image. Donc je crois que doucement, sans le savoir, entre ça et le travail avec Richard Forman, qui était aussi très surréaliste et très coupé, très haché, avec des brusques rapports au son, de couper au moment, plus le travail de collage en atelier, où vraiment je commençais à découper les dessins pour les animer, presque comme le début de l'animation, image par image. Il y a quelque chose aussi dans ce mouvement et la vie à New York, qui est extrêmement frénétique, qu'il l'était pour moi pendant 20 ans, parce que j'allais tout voir, tout faire, parce que j'avais un job à plein temps, parce que tout le monde court partout, parce que tout le monde marche vite, et qu'il y a une énergie très positive. Donc on est tout le temps dans l'énergie de courir, faire, voir. Et ça se retrouve, je pense, aussi dans mes films, parce que je suis incapable, c'est dur pour moi de rester assise pendant une heure.
Ça va, voilà. Ça va passer hyper vite.
Je veux dire, c'est un rythme qui m'appartient, je pense, et qui vient de la danse aussi. Donc petit à petit, je pense que c'est créer un rythme dans l'invention de même manipuler et apprendre cette caméra.
Mais oui, justement, parce qu'à la fois du côté de Forman et du côté de la Bolex Super 16, on entend bien qu'il y a la machine, et c'est d'ailleurs des bruits que parfois vous gardez dans vos bandes sonores, des bruits de machine, qui engendrent aussi un rythme, une esthétique. Alors qu'est-ce qui vous fait tomber sur la Bolex ?
Ça, c'est une jolie histoire. C'est une histoire d'amour. Et quand l'histoire d'amour s'est terminée, ce compagnon m'a offert sa Bolex.
Sympa.
Et donc, j'ai appris à m'en servir en rencontrant une personne très importante dans ma vie, qui est Mike Kuchar et les frères Kuchar, George et Mike Kuchar, qui m'ont vraiment appris à m'en servir. Et j'ai appris à faire des films en jouant dans leurs films et en étant avec eux. Et eux, ils ont inventé quand même tout un pan de cinéma qui a inspiré John Waters par la suite, qui a écrit un bouquin sur eux. C'est vraiment ce qu'on appelle le camp, le cinéma camp de cette époque aussi.
C'est quoi alors le cinéma camp?
Ben, ça veut dire faire des films avec aucun budget presque.
Donc que des copains.
Des copains, même les parents, maquillés, grimés. En amour total pour eux de cinéma hollywoodien. Donc on retrouve des cadres incroyables, des musiques hollywoodiennes, des maquillages, de la technicolor, mais tout ça fait avec des bouts de ficelle, avec une joie explosive et aucun problème sur la narration. C'est-à-dire que tout peut être fait, tout peut être montré, tout peut être rythmé et tout est un peu bricolé. Donc les erreurs font aussi partie de la fabrication du film, d'où par exemple quand j'enregistre toute seule Genesis Peerage ou Alan Vega, on entend le bruit de la caméra, mais je suis toute seule, donc je peux... Ben voilà, c'est l'homme orchestre, il met le son là, il filme, peu importe les erreurs, on doit les inclure.
Ça devient une des matières que vous travaillez. Puisque vous parlez de Genesis Prayer Peerage et que vous parliez de collage, on l'écoute parler de collage.
There's only two things that we've always done.
Il y a seulement deux choses que nous avons toujours fait.
Whether or not people are aware of it.
Que les gens soient ou non au courant.
Even when we've disappeared for years on end through being in exile.
Même lorsque nous avons disparu pour quelques années, lorsque nous nous sommes exilés pour des raisons personnelles,
we've always made collages.
Nous avons toujours fait des collages et nous avons toujours écrit ce que l'on peut appeler des poèmes.
That's my psychiatrist or my psychologist. It's my
C'est notre psychiatrie, notre psychologie, notre thérapie interne.
With collages, creating worlds and
les collages créent des mondes,
visual images of things that couldn't otherwise exist.
Des images visuelles de choses qui ne pourraient exister
that
autrement,
you can't find anywhere else, that
que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs.
You actually have the ability, an almost divine ability to
des
create.
Choses qu'on a la capacité et même l'incapacité à créer
universe,
un autre univers
with its own aesthetic and
sans rien de statique,
rules and regulations,
sans règles géométriques.
And poetry is just, it's my conversation
et la poésie,
with myself,
c'est simplement une conversation avec nous-mêmes.
Trying to understand how we're
essayer de comprendre
and feeling
comment
about
nous pensons, comment nous ressentons les choses dans un temps donné.
And we keep journals too.
Et nous écrivons des journaux aussi.
So, poetry and journals,
la poésie et les journaux, pour nous, c'est la même chose. Il n'y a rien que nous faisons qui ne fasse pas partie de notre quotidien sous certains aspects. Nous intégrons véritablement toutes les activités créatives à notre vie.
That it should always be a story as well.
Il devrait toujours y avoir une histoire.
An art that's just art for its own sake or for aesthetic.
Et l'art qui n'est que de l'art pour l'ascétisme, de l'art pour les règles, des règlements, une forme de post-modernisme n'est pas intéressant.
Brian Geisen called it deceptual art.
Nous l'appelons l'art déceptuel.
And it's true. Most art that you see
et c'est vrai.
Now, it might
la plupart des artistes que l'on voit aujourd'hui font peut-être ce qu'il faut pour plaire au marché de l'art.
Well,
leurs œuvres sont très bien représentées, elles sont très bien faites.
And it has absolutely nothing to say whatsoever. Which is why rich people like
et on ne peut rien leur reprocher, mais elles ne déstabilisent pas les gens.
But for us,
pour nous,
it has to be a conversation with the,
l'art doit être une conversation avec
of
le
life,
mystère de la vie.
The fact that you even exist, or even do we exist.
Une conversation avec le simple fait que nous existions.
Nobody even knows anything. But what you can do is try and
ce que nous pouvons faire, c'est tenter d'intégrer la conscience, l'action, les idées et d'en faire de la vie.
Il devrait toujours y avoir une histoire. C'est presque la seule phrase comme ça que je retiendrai de cette archive-là. Une des seules phrases, elle est au micro de Frank Smith en 2012. C'est vous qui les aviez fait se rencontrer, Marie Lozier. Cette émission, elle s'appelait « La poésie n'est pas la solution », diffusée sur France Culture. Je trouve ça assez beau parce que d'une part, vous allez nous présenter cette personne qui fait partie de votre long métrage La Ballade de Genesis et Lady Jane. Et d'autre part, la manière dont, dans sa parole, est rendue nécessaire l'invention permanente de l'existence. Et que ça n'est que ça, en fait. Être dans l'art, ça n'est que, en permanence, inventer son corps, inventer son histoire, inventer sa vie. Comment est-ce que ça rencontre votre propre pratique, Marie Lozier?
Elle parle tellement bien. Une si belle voix, c'est bon de l'entendre. Mais c'est vrai que... Il y a plusieurs choses, mais la rencontre avec Genesis était tellement inattendue. Je ne connaissais absolument rien de sa musique. J'avais pas lié à Throbbing Gristle, la mention de la musique industrielle et tout son passé. Elle était déjà un peu transformée. Mais par rapport au point dont vous parlez, ce que j'ai trouvé merveilleux et qui m'intéresse d'ailleurs dans tous les portraits que j'ai faits, de Tony Conrad à Alan Vega, tous ces gens, Cassandro, s'inventent, se réinventent constamment, sont toujours dans le processus de création. Tout est création. Mmh. Et c'est l'art d'exister, en fait, à travers la fabrique constante, que ce soit une feuille de papier, une pensée, un geste, un tatouage, peu importe. Tout ça est utilisé dans un collage de la vie qui permet de réinventer une image constante et de jamais... C'est circulaire. Moi, ça me passionne parce que c'est aussi en tant que filmer le processus de création dans le temps Et le temps est très important parce qu'il permet déjà une certaine économie petite d'exister et de faire des films. Et aussi, le temps permet de raconter une histoire et de raconter l'évolution de la personne filmée dans le temps, parfois 7 ans. Ce film sur Genesis, ça a été 7 ans de tournage, qui m'a permis aussi quelque part de raconter ce processus de création et tout ce qui s'y passe, et même le drame et la narration qui s'y passe au travers le film. Mais ça a été une rencontre très 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 forte pour moi et très marquante, et je pense qu'elle a marché et le film a su exister, et elle a su aussi elle me choisir parce que j'étais pas une fan, parce que j'étais pas après quelque chose. Et comme toujours, c'était juste des rencontres. Rencontres inattendues qui me basculaient comme un sort de détective dans un monde inconnu dans lequel j'allais archiver, documenter, penser, créer et inventer avec l'autre artiste.
C'est là qu'il y a un point de rencontre aussi avec Jonas Mekas qu'on entendait précédemment, c'est le rapport au journal et à la quotidienneté, c'est-à-dire que, et c'est aussi la tension qu'il peut y avoir avec une idée commercialisable de l'art, c'est que tant que ces personnes-là considèrent que c'est leur existence qui les réinvente et que donc c'est par leur quotidienneté, par leur manière de prendre des notes de leur quotidien qui font de l'art, évidemment, c'est difficile à marchander tout de suite comme ça, comme tel. Et donc, il y a une tension assez forte, Marie Lozier, dans cette idée de l'art-là, qu'on entendait dans l'archive d'ailleurs.
Oui, ça c'est une évidence même. Je pense que, enfin, je vois pas Jonas Mekas en train d'écrire un dossier pour le CNC pour essayer de subventionner un long métrage.
Bah ouais, mais ça change tout.
Et ça change tout dans la fabrique et dans la vie.
Et dans la pensée, voilà, des films et dans comment, ouais, on les fait quand même.
Complètement. Et les rencontres qu'on fait. Et la
et le temps qu'on se donne pour le faire. Voilà.
Après, bien sûr, faut le savoir dès le départ. Et moi, je l'ai toujours su en rencontrant Mike Kuchar, qui était projectionniste pour gagner sa vie. Et c'était très drôle, il m'a tout de suite dit « Je suis un artisan et je fais des films le week-end et les soirs. Join my company. C'est « Come in my basement ». C'était très drôle. J'ai dit « Ok, bon, c'est le basement quoi, des réalisateurs artisans. » Mais je savais que pour être libre et faire ce genre de film ou vivre cette existence que j'ai eue à New York, c'était même pas une question. C'était beau, c'est une façon d'être et de vivre qui m'a extrêmement nourrie. Même si aujourd'hui je suis à nouveau en Europe et j'approche avec la même liberté, mais une autre façon, en intégrant un milieu quand même plus produit, plus de cinéma, même si j'en reste un peu décalée, bien sûr. Mais je suis toujours prête à apprendre, tout en gardant la liberté que ça m'a donnée aussi. D'apprendre.
Comment ça se transpose, puisque vous parlez d'une certaine ébullition, émulation entre les personnes qui constituent une sphère, pour pas dire un milieu artistique à New York et aux États-Unis, Marie Lozier. Et puis vous partez, je sais pas pour quelle raison, mais vous revenez en Europe. C'est pas exactement les mêmes fonctionnements. En même temps, il y a plein d'endroits où on fait du cinéma aussi de cette manière-là en Europe. Ils sont tout de suite identifiables pour vous. Vous allez tout de suite les rejoindre comme étant des nouveaux basements.
C'est un long parcours, 20 ans. Donc, je pense que ça a été des films qui prennent longtemps parce que c'est d'abord l'amitié, c'est d'abord la rencontre dans un certain milieu. Après, ce qui est toujours évident, c'est que c'est un milieu, c'est-à-dire que ça reste inconnu pour beaucoup de monde. Et quelque part, pour moi, pour de les filmer, ou de prendre le temps de filmer certains artistes que j'ai rencontrés, qui comptent beaucoup pour moi, ce sont aussi le temps d'aimer et de continuer à aimer, et aussi de garder sauf certaines personnes qui sont presque sur le bord d'un danger. Il y a quelque chose d'extrême comme Genesis, qui est quand même tout le temps à l'extrême, ou Cassandro, tout le temps à l'extrême.
Pour Genesis, on reviendra sur Cassandro, mais ça tient à quoi, selon vous, cette idée justement de la frontière sur laquelle beaucoup des personnes que vous filmez se tiennent d'une certaine manière?
Oui, et quelque part, je pense que le cinéma, ou les filmer, ou moi les filmer, pour moi, ça me protège, ça garde, ça empêche de tomber. Et ça
mais
met
ça
un hommage.
Mais ça vous borde ou ça les borde?
Moi, ça va, je suis assez bordée, je pense. En fait, je suis très à l'aise là-dedans. Non, je pense que Jen, c'est bien sûr une sorte de tension constante dans le corps, dans la transformation du corps par les opérations, par la drogue. Je pense que si ça marchait si bien, c'est que moi j'aime que le chocolat et elle aime autre chose. À l'opposé, les opposés, ça marche. Les tensions marchent pour faire des, pour fabriquer ensemble. Et je pense que Genesis, c'est constamment, en tout cas par, pour elle, le danger entre la vie, la mort, l'extrême, la création, la musique, le collage, l'amour, tout est extrême, tout est au bord d'eux et tout est poussé au maximum et c'est sa seule façon de pouvoir sentir et ressentir et créer. Donc ça, je trouve ça merveilleux aussi parce que être libre, c'est pas évident. Savoir l'exprimer ou le créer, c'est encore moins évident. Et quand on y arrive un peu et quand on inspire les autres, c'est quand même un très beau cadeau.
C'est des gens que vous filmez, Marie Lozier, qui majoritairement disent ou font des choses qui nous disent qu'ils ont décidé profondément d'être qui ils voulaient être et que jusqu'au bout, leur existence tentera, aussi fragilisant que cela puisse être, de coller à ça. Et bon, je ne sais pas ce que, si vous pouvez un peu développer cette idée de l'acte que c'est de les filmer. Est-ce que c'est... Oui, rendre hommage à cette tentative-là, éventuellement nous donner un peu d'énergie pour que nous aussi, on tente ça à d'autres échelles. Qu'est-ce que c'est cette façon de les prendre avec dans votre caméra?
Moi, je pense qu'il y a un peu des deux et même d'autres choses, parce que c'est pas un choix, mais par contre, j'ai l'impression que je les attire beaucoup. et ça me plaît beaucoup aussi. Mais dans l'acte de filmer, je pense qu'il y a aussi cet apprentissage, cette découverte de ce que sont ces extrêmes qui sûrement m'apportent beaucoup puisque c'est des lieux d'apprentissage, c'est presque une école d'apprentissage, que Genesis ait fait de la musique de façon totalement autodidacte, que les collages soient venus, tous ces artistes que j'ai connus, de Alan Vega à autres, ils n'ont pas fait d'école pour devenir, mais ils sont pluridisciplinaires aussi. De la musique à la peinture, Alan Vega toute sa vie, Genesis, toutes les autres formes d'art, et justement de pouvoir fabriquer avec eux aussi, c'est-à-dire d'amener mon propre univers, d'essayer de construire à deux certaines mises en abîme de l'histoire qu'ils ont vécue, mais à travers une création beaucoup plus peut-être enfantine, ou qui me parle plus, ou qui me ressemble plus, ça fait aussi révéler pour des personnages comme Genesis assez puissants, une certaine timidité, une certaine intimité qui s'ouvre en fait et qui se révèle tout en jouant ensemble avec la caméra, avec le processus de création et le temps aussi qui permet ça. Et souvent ces personnes, ces personnages, je sais pas comment, des amis quoi aussi, hein, carrément, sont des gens extrêmement timides et extrêmement drôles.
Et Malgré toute l'extravagance dont on pourrait croire qu'ils sont Genesis, les emblèmes.
Elle est hilarante. Enfin, c'est quand même, elle reste bien anglaise là-dedans. On a ri à en pleurer. Tony Conrad, pareil. Enfin, c'est vraiment des gens qui parlent aussi librement qu'ils pensent et c'est très très drôle. Mais extrêmement timide. Et c'est tous ces opposés que j'adore aussi. Hein. France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Marie Lozier.
I wash my hands in the water of the toilet. I wash my hands in the beauty of your tears. And every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. I break my feet on the pathway to forgiveness. I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake. Sunshine. I burn my tongue in the beauty of your grace. And every time I feel your ire, I know I'll end up in hellfire. I lose my mind at the sight of all the beauty. I lose my mind at the sight of your delight. And
C'est-à-dire j'avais des émotions dans la vie et puis qui m'intéressaient et je les reproduisais au cinéma avec des acteurs. J'écrivais une petite histoire et petit à petit, j'ai eu l'impression que je m'éloignais de ma vraie curiosité et du vrai plaisir que j'avais à rencontrer des gens qui me bouleversaient un petit peu ou qui m'amusaient. Et petit à petit, je suis allé directement les filmer au lieu de reconstituer des... ce qu'il m'avait donné avec d'autres. Mais quand je vais les filmer, je suis responsable quand même de l'authenticité de ce qu'ils sont et de mon regard sur eux. Et je suis très très... Mais en fait, c'est une histoire de... C'est l'histoire, les portraits, c'est l'histoire de notre rapport à tous les deux. Voilà. Le cordonnier qui est à 25 mètres de chez moi... que j'allais filmer tous les jours, c'est mes rapports avec lui. Et c'est comme ça que c'est un très bon portrait de lui. Ça ne peut pas être abstraitement, à la troisième personne, il se leva le matin très content de couper le cuir d'un... Non, j'y vais tous les jours et on se parle, et je lui demande des précisions, j'introduis ma main dans le champ, mais je n'empiète absolument pas sur lui.
C'est la voix du réalisateur Alain Cavalier, juste après ce morceau de There is a Garden de Félix Cubin, qui est aussi une des personnes que vous avez filmées. Marie-Losie, on y reviendra, mais peut-être, puisque c'est frais dans notre mémoire, revenir sur ce que dit à l'instant Alain Cavalier, le portrait c'est un rapport, c'est une relation, c'est quelque chose qui ne peut pas exister à la troisième personne. Est-ce que c'est ainsi que vous concevez les nombreux portraits que vous avez réalisés ?
Complètement. Pour moi, c'est très beau la façon dont il l'a dit. Et j'aime énormément ce portrait dont il parle en plus, que j'ai découvert en France. Et c'est un rapport à l'autre, c'est une lettre d'amour quelque part. C'est vraiment un geste. Et il faut les aimer pour les filmer. Il faut s'y intéresser. Il y a quelque chose de merveilleux qui sort du temps passé, du temps partagé, de l'écoute. J'adore écouter. J'adore qu'on me raconte des histoires. Donc je pense que quelque part, filmer l'autre, c'est aussi savoir écouter, savoir rentrer dans un univers qui est la pensée de l'autre, d'archiver, de construire à travers ma propre émotion. C'est peut-être pas du tout celle de quelqu'un d'autre, parce que tout le monde fait des films différents, tout le monde fait des émissions différentes, de la musique différente. Donc c'est vraiment personnel. Et j'aime bien être seule pour filmer, surtout les portraits, parce que c'est le rapport à l'autre et seulement à l'autre. S'il y a une équipe, pour moi, il faut savoir le faire. Enfin, là, récemment, j'ai vu un film de Sébastien Lipschitz, Les Adolescents, que j'ai adoré. Il y avait une équipe. Et je me suis dit, chapeau, parce que je ne saurais pas être aussi proche de deux adolescentes si j'avais une équipe. Et j'aime tellement être seule... pour prendre le temps, c'est souvent ça passe par des déjeuners, des goûters, des balades, du temps pour apprivoiser l'autre, pour partager, pour aider l'autre aussi, et puis en même temps créer, construire petit à petit, additionner les idées, et puis presque parfois, en tout cas pour moi, de les amener aussi parfois vers le jeu, la fiction, en plus de... Quand j'entends Alain Cavalier, c'est ça. Mais lui, il reste très proche du documentaire, du portrait documentaire. Et je sais que moi, je les amène aussi à travers ce qu'il me raconte, vers des images de tableaux vivants, des sortes de mises en scène ou mises en abîme de ce qu'il racontait ou de comment je les imagine aussi.
Mais c'est peut-être une façon d'entrer la main dans le cadre. On entendait Alain Cavallier dire « Moi, je vais même jusqu'à mettre mon corps dans le cadre. » Marie-Losier, lorsque ce sont presque vos images mentales qui interviennent à l'écran, parce que vous avez demandé à l'un ou l'autre de s'habiller comme ça, ou de faire tel geste, ou d'effectuer telle chorégraphie d'une certaine manière, vous entrez aussi dans le cadre de cette manière-là.
Oui. D'ailleurs, on m'entend souvent rire, parce qu'au départ, j'ai un rire tellement fort, on sait toujours quand je suis aussi noche, mais à chaque fois, j'ai essayé de l'enlever des films, l'enlever, et en fait, ça couvrait toute la bande-son, puisque j'oublie, je suis toute seule avec Jen, je la filme, et je ris, et après, c'est horrible au montage, parce qu'il faut tout enlever. Et ça marche pas toujours.
Est-ce que vous êtes vraiment seule, hein? Parce que le fait d'avoir quand même une caméra, ça modifie les présences. Enfin, on voit bien faire de la radio, c'est pas pareil que parler avec quelqu'un au café. C'est très différent.
Oui, mais comme je filme sans une... C'est pas une caméra vidéo, il y a un retour tout de suite à l'image, où il y a le son qui est pris en même temps. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Après, c'est un processus comme un autre filmé, bien sûr, ça modifie de toute façon. Mais c'est mon instrument, la personne que je filme, elle a d'autres instruments. Donc, ça n'a pas d'importance. De toute façon, dès qu'on filme, c'est jamais une vérité absolue. C'est déjà ce qu'on a envie de filmer et comment on le filme. Et ça devient un portrait de soi-même aussi.
Y compris quand on colle à ce film-là un caractère documentaire. Quand Alain Cavallier dit « Mon regard implique une certaine responsabilité », je crois qu'il parle d'authenticité. Est-ce que ça vous intéresse, ça ?
Non, jamais. En fait, je ne sais pas ce qui est authentique ou pas. Et parfois, je trouve que c'est même plus authentique, parfois pour moi en tout cas, d'arriver à amener quelqu'un dans la fiction ou dans le jeu pour en faire ressortir une sorte de vérité ou d'intimité que je n'aurais peut-être pas réussi à approcher dans le documentaire tout simplement.
Peut-être qu'il faut parler là quand même de l'art du grimage, de tous ces costumes qui existent de mille manières différentes, qu'il s'agisse de vos courts-métrages ou de vos longs, Marie-Losier. D'ailleurs, la photo, je ne sais pas si c'est la photo du jeu de paume ou autre, vous montre hyper classique, mais quand même avec un espèce de c'est quoi ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez
sur la tête ? En fait, il y avait un pot de fleurs avec des boules de fourrure.
Ouais, voilà.
On devait faire une photo très officielle. Et moi, je déteste poser, je déteste être devant une caméra à poser officiellement. Donc, j'ai mis les deux boules du bouquet de fleurs sur la tête. Et c'est celle-là qu'ils ont choisie.
Mais je pense que ça dit quand même que vous aimez ce geste-là. Je parlais de flying saucy, donc tous ces corps qui sortent des spaghettis et qui vont bientôt se prendre des sauts de sauce tomate sur la figure, ils ont tous une sorte de déguisement. Ils sont tous transformés. Qu'est-ce qui vous intéresse là ? Vous pensez que dans ce détour, il y a justement la vérité ou l'authentique dont parlait Alain Cavallier ?
Mais je pense qu'on n'a pas la même approche. Ça, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui se libère pour moi quand on est gamin et qu'on se costume. Ben on peut être ce qu'on veut, hein. On peut être princesse demain, on peut être tortue, on peut être lion, c'est génial, en deux secondes, ça y est, c'est parti. Et quelque part, être adulte et aussi continuer à se déguiser ou à se transformer ou à se maquiller, il y a un jeu et aussi, c'est aussi une façon de voir la vie, je pense, pour moi, en tout cas, c'est peut-être pas du tout le truc des autres, hein, mais pour moi, c'est une façon de aussi embellir, changer, détourner la vie et d'approcher à quelque chose où je peux avoir accès aux autres. Où je suis assez timide quand même de nature et quelque part déguiser les autres ou les amener à faire quelque chose ou les transformer, les travestir, c'est aussi ne pas rentrer dans un moule, c'est aussi ne pas convenir à quelque chose d'arrêté et d'aller vers le jeu. Et je crois que même le début du cinéma c'était du jeu, hein, le slapstick. Les tartes à la crème et les sauces tomates, ça fait encore rire. Hein. Moi, ça me fait toujours rire, en tout cas.
Cette thématique-là, elle se file aussi quand on va du côté de la chirurgie esthétique. Vous filmez aussi ce genre de corps en transformation. Quand on va aussi du côté des transformations de genre, vous filmez aussi ce genre de corps en transformation, en recherche, en tentative de soi. Donc ça va à la fois des paillettes et presque du nez rouge qu'on met sur sa tête pour rigoler à un trajet existentiel en fait.
Oui, c'est assez personnel pour moi. C'est vrai que J'ai été très malade quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup aussi de un rapport au corps qui est très particulier. Et j'aime les corps. En fait, quelque part, les corps de Freaks, de Todd Browning, ou les corps énormes, les gros seins de Fellini, ça me plaît magnifiquement. C'est-à-dire que tous les corps m'intéressent. Et aussi les douleurs, les fragilités, les cicatrices, les transformations, les genres différents, sexués, asexués, transformés. C'est quelque chose qui me parle plus que quelque chose de complètement une Barbie, quoi. Enfin, quelque chose d'assez esthétisé. Et je trouve qu'il y a une beauté, c'est une poésie quand même. Un corps, c'est un paysage. Et un corps, ça souffre toujours d'une façon ou d'une autre. Et c'est caché, c'est grimé, c'est transformé. Donc il y a une façon de l'apprivoiser et de l'aimer aussi. Et pour moi, en tout cas, à travers le cinéma, c'est une façon de s'en approcher et de vivre avec aussi et l'embellir.
Et c'est absolument palpable dans ce film, dans ce portrait que vous faites de Cassandro. Presque tout y est dans ce film-là. On va dire qu'il est, mais d'abord on l'écoute.
8 head concussions, twice the teeth,
8 traumatismes crâniens, 2 fois les dents,
the crowns,
plus les broches,
and anything else.
Quelque chose à ajouter.
Now what I'm struggling lately is with my hands.
En ce moment, mon problème, c'est les mains. Quand je prends mon téléphone et que j'envoie des textos, ça me fait mal. J'arrive plus à plier mon doigt. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Et ça fait très mal. Et le fait que tu ne prennes plus de drogue et d'alcool, est-ce que ça veut dire que les opérations doivent se passer autrement ? Non, ça se passe normalement. Oui, mais tu peux pas prendre de morphine pour la douleur. Non, je prends juste ce qu'on me donne à l'hôpital. Après, à la maison, je prends de l'ibuprofène, des trucs légers, du paracétamol.
The hard narcotic pain.
Mais jamais d'antidouleur super puissant. Je prends jamais ça. C'est pour ça qu'à la maison, je reste en silence. Je prie parce que ça fait très mal. Cassandro vous souhaite beaucoup d'amour et de paix.
C'est un extrait de votre film Cassandro, Marie Lozier, qui est doublé par Romain de Bec de Lièvre. C'est une conversation Skype, on entend votre voix qui interrogeait Cassandro. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement ?
Cassandro, c'est une sorte de héros de bande dessinée entre le Texas et Juarez, la le bord des États-Unis et du Mexique le plus dangereux. Et c'est vraiment un héros dans le sens où il y a une montée et une chute comme vraiment un film hollywoodien. Une personne extravagante, extrêmement sensible, extrêmement touchante et en même temps en fin de carrière d'un métier qui est toute sa vie, qui est la lucha libre. Mais c'est un luchador, donc comme la boxe, mais à la mexicaine, avec un masque, la lucha libre. Mais lui, il ne fait sans masque. C'est vraiment les exoticos, c'est une catégorie de la lucha libre qui est pour les homosexuels. Et lui est ouvertement homosexuel dans un monde extrêmement machiste et le vit entièrement, malgré les douleurs physiques d'un corps qui est vraiment en fin de parcours, quoi.
Et évidemment, c'est un milieu qui non seulement est machiste, mais met en scène son machisme et sa virilité. Lui, on peut dire qu'il met en scène d'autres choses, plein de choses. Il a une sorte d'épaisseur de l'imagerie qui fait circuler dans votre film, Marie Lozier. Il met en scène quoi, selon vous, ce Cassandro ?
Il cache plein de choses, parce que en fait, c'est Saul Amandaris, l'homme. La personne que j'ai rencontrée avant de rencontrer Saul Amandaris, Cassandro. Et c'est l'homme qui me plaisait. C'était sa fragilité avec le sport qu'il faisait, d'où il venait, son parcours. Et d'essayer de filmer l'homme et pas filmer Cassandro et de me lier les deux, c'était une vraie lutte de 6 ans quand même avec un beau soutien d'une productrice, Carole Chassingue et Antoine Barraud. Et vraiment, ça a été un long parcours, parce que il se cachait tout le temps derrière 1000 masques. Alors, c'est déjà un sport avec des masques, mais alors lui, il l'enlevait pour en recréer d'autres. Et je pense que la Lucha Libre, être sous les effets de la lumière, sur scène, c'était le moment le plus haut de sa carrière, d'être aimé entièrement et d'être vaillant, quoi.
Dans cette conversation, il détaille des blessures. Il y a une autre séquence du film où il vous les montre. Hein, il tend ses paumes, il décrit. Alors ça, c'est tant d'années de mauvais coups. Ça, c'est la fracture du tibia qui l'épaule. Et quand vous disiez tout à l'heure, Marie-Losil, un corps, c'est un paysage, un corps, c'est un poème. Là, on sent que vraiment votre caméra prend le corps de cet homme comme ça, quoi. Vous le filmez comme un jardin, comme une montagne, comme une peinture, comme une sculpture. C'est vraiment à la fois votre regard qui est conjugué, et on a l'impression qu'il est conjugué avec sa progressive prise de conscience de son propre corps. Est-ce que vous diriez ça? Est-ce que le film, c'est aussi le moment de ça pour lui?
Ah, je pense que ça a été énorme, la prise de conscience, et le travail à deux, en fait. Il a un très beau corps, j'aime énormément, et c'est vrai qu'il souffre énormément, il est cassé de partout. Mais au moment où je l'ai filmé, il était encore au sommet. Et puis petit à petit, ça s'est vraiment, vraiment détruit avec des énormes opérations. Et aussi quand même une deadline hein, qui était là, qui pourrait plus remonter sur scène. C'est une fin de carrière. Il y est encore remonté, il continue un petit peu, mais c'est la fin. Et c'est vrai que pendant le tournage, il a presque refusé le tournage, tellement il refusait d'abandonner la Lucha Libre à cause des opérations, une sorte de fragilité totale du corps qui ne peut plus, comme beaucoup d'athlètes en fait, hein, presque tous d'ailleurs, dans la gymnastique de compétition, tous les Jeux Olympiques, tous ces athlètes, c'est une carrière très courte. Et moi, ce qui me touchait, c'était de faire ce voyage aussi avec lui, parce qu'il résistait, donc il y avait une résistance, il y avait de l'amour et en même temps de la haine pendant tout le tournage. Donc c'était très dur à faire, et en même temps, je voulais pas lâcher, et le lâcher. Et lui, non plus, pas du tout. Il me rejetait, mais en même temps, il avait trop besoin du film aussi pour exister, pour continuer. Et ça s'est très très bien fini, puisque le film est sorti, il était avec nous, il était tellement heureux, ça l'a repoussé vers une sorte de regain de carrière, d'intérêt. Et c'est beau quand ça peut faire ça, un film aussi.
Vous parlez de la lutte qui est le sport qu'il pratique, de la lutte entre vous, rejeter, accepter le film, se chercher, se trouver un territoire commun. On peut aussi parler de sa propre lutte contre des addictions, contre un certain rapport mortifère à son corps ou jouissif à son corps mais qui l'emmène dans des endroits difficiles. Et finalement, ce n'est pas le seul des personnages ou des personnes que vous filmez, Marie-Losier, qui est en lutte, qui est dans des combats. Vous donneriez quoi comme place à votre cinéma, puisque là c'est une rétrospective, à cette idée de la lutte et du combat?
Oh là là, c'est une question compliquée. Quelle place? Elle est quand même assez présente tout le temps, mais je dois dire qu'elle est liée à une sorte de joie de vivre aussi.
Ah ouais, complètement. Okay, j'allais préciser ma question en disant qu'il n'élude jamais la joie.
Voilà, et je pense qu'elle est... c'est pour ça que j'ai du mal à y répondre, parce qu'elle n'est pas du tout glauque ou triste, elle l'est, mais parce que je pense que je suis très émotive aussi, et je me bagarre avec ça déjà dans la vie, et que ce sont des êtres très émotifs, et l'émotion, pour moi en tout cas, même dans la vie ou dans le cinéma ou dans tout art d'ailleurs, je pense que les larmes marchent le mieux quand il y a aussi beaucoup de joie. Et c'est cette rupture même de comment en film ou musicalité, des opposés, qui fait que l'émotion est d'autant plus forte. Et je pense que le rire vient de quelque chose de très profond et parfois très grave.
Donc presque la lutte, ce serait entre ces deux pôles-là, d'une certaine manière. S'il y a combat ou s'il y a affrontement, ce serait entre des pôles d'émotion très...
Très fort.
Très fort et très contradictoire.
Ouais, j'aimerais bien parfois un peu de temps plat, mais ça n'existe pas.
Vous feriez pas les mêmes films quand même?
Non, non, je pense pas. Mais non, non, le prochain, ce sera plutôt une comédie musicale, donc ça sera aussi assez fou pour aller vers la musique totalement. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est un grand hommage pour moi. C'est la première fois en France que j'ai une rétrospective. Ça a été un beau parcours avec le Jeu de Paume, avec Marta Ponsa qui m'a programmé, avec le Festival d'automne, et puis avec Antoine Barraud qui m'accompagne pour la programmation. Parce que c'est trop dur de programmer ses propres films, c'est impossible quoi. Donc il a éliminé ceux que j'aimais pas, ce qui était bien. Et puis on a mis en valeur aussi une carte blanche qui m'a permis aussi de montrer certains des artistes qui, moi, me parlent beaucoup par rapport au parcours que j'ai eu quand on parlait de l'anthologie Film Archive.
Et qui recrée une constellation dont on parlait beaucoup au début
énormément,
de cette émission.
Oui, parce que j'ai choisi des films de la Film Coop, qui est quand même le distributeur de films, le collectif que Jonas Mekas a créé. Et donc, il y a énormément d'artistes dans les films que je vais montrer, très rares, des pépites en 16 mm qui viennent de cette distribution, d'où Jack Smith, plein d'artistes, des Couchard, les frères Couchard, J.J. Murphy.
Comment on fait pour que ce partage soit plus large, Marie Lozier? Comment on fait pour que des gens qui ne soient pas justement de cette sphère, de ce milieu-là, y accèdent?
En fait, faut juste aimer le cinéma, être un peu ouvert, parce que quelque part, c'est pas des films difficiles à regarder, c'est pas du tout... Moi, je trouve pas ça embêtant. On s'ennuie absolument pas, il y a beaucoup d'humour.
C'est très souvent vivifiant.
Oui, pour moi, c'est un coup d'adrénaline. Et je pense que c'est aussi une façon d'être ensemble. Qui est assez ouverte.
Mais quand je dis comment on fait, c'est que là, ça reste, c'est super généreux, le jeu de paume, mais ça reste le jeu de paume.
Eh ouais. Alors ça, j'en sais rien. C'est la mission qu'on continue à faire, c'est essayer de, avec un petit bagage sur le dos, d'aller le faire partager, le faire partager, le faire partager, voilà. Et heureusement, il y a des familles de cinéastes qui se créent dans tous les endroits où on va. C'est vrai qu'en France, c'est nouveau pour moi. Ça fait 4 ans. Et il a fallu se recréer une vie aussi ici. Donc j'ai trouvé, grâce à ça, des cinéastes avec qui je me sens très proche.
Et notamment, ça passe souvent, et ça permet aussi de reboucler la boucle par rapport au début de notre entretien, par ces machines, par l'amour des Bolex, des Super 16, des Super 8, du développement. Ces petites familles de cinéma, généralement, elles partagent, notamment par la technique.
Oui, c'est vrai, par exemple... Même Bertrand Mandico, qui est un ami proche, ou Elina Lohensol, qui jouait dans les pièces de Richard Forman, Yann Gonzalez, Camille Delegue, plein d'amis, en fait, qui travaillent à travers la pellicule, avec des cinémas, avec d'autres budgets, avec d'autres façons de les faire, mais qui ont un partage de l'amour aussi de la fabrication. Et des décors, de tout toucher, de tout inventer aussi, qui sort un peu du... ce qui est attendu peut-être.
Merci beaucoup Marie Lozier. Donc on pourra aller voir ces courts-métrages, ces longs-métrages de vous et des autres au Jeu de Paume à Paris. C'est jusqu'au 23 novembre et ça s'appelle Confetti Atomique. I'm gonna do too. You held up a stagecoach in the rain. And I'm doing the same. So... À la prise de son, Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Léos, Lucie Riandet, Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr avec toutes les références et un podcast via toutes les bonnes applications. Très belle soirée sur France Culture où il sera normalement tout bientôt 22h. I'm gonna do too. Moon people go into the stratosphere. Soldiers fighting with the Kong. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything for you, anything you want me to. I'll do anything for you. Oh, oh, I'm sticking with you. Oh, oh, I'm sticking with you. Stick.